Africa numéro 1. Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Lamine Badiane sur Africa numéro 1.
Salut! Dis donc, je peux y aller là? Qu'est-ce qui se passe là? On fait des gestes là, je peux y aller là? Bon, c'est bon, allez, salut à tous! On vous parlait en début d'émission d'un invité surprise avec nous. Il vient chaque fois que le PSG gagne. Il vient de fêter son anniversaire. C'est le président Akindele qu'on vous demande d'applaudir, messieurs, dames. Voilà, bon, c'est bon. Bon, messieurs, comme chaque lundi, nous allons vous faire le tour d'horizon du football africain et à travers le monde. En Afrique d'abord, avec la Ligue des champions africaine et la Coupe de la Confédération. Nous reviendrons ensuite sur la liste des pays que nous n'avons pas pu vous donner, comme par exemple le Cameroun et autres. En deuxième période, les rubriques habituelles, championnat de France, championnat d'Angleterre et championnat d'Afrique, d'Espagne plutôt. Pour vous décortiquer tout cela, le doyen Willy Gordorcono.
Doyen, bonsoir. Bonsoir mon coach, bonsoir tout le monde, bonsoir la belle Hélène.
Hakim, salut.
Bonsoir à coach Lamine, bonsoir Willy, bon anniversaire à Souleymane Akindele qui est avec nous. Coucou à Christian et à Hélène et également à tous les auditeurs et les auditrices.
Christian Chango, salut.
Salut coach, bonsoir à tout le plateau, bisous à Hélène et un coucou à Nasreddine à qui je souhaite un bon anniversaire.
Ah oui, c'est vrai que
bon anniversaire aussi, Nasreddine.
Ouais. Président Akindele, bonsoir.
Bonsoir coach Lamine, bonsoir Kim, bonsoir Dorian Willy, bonsoir mon jeune frère Christian Chango, bonsoir Hélène. Et je voudrais vous remercier sincèrement du fond du cœur. Ça m'a touché le lundi dernier d'entendre un message venant de votre part. Et je voudrais remercier aussi, avec votre permission, toutes les personnes qui ont pensé à moi ce 1er octobre 2018.
Ouais. Mais il n'a pas ramené le champagne hein, par contre. Hein.
Ah ben oui, c'est ça. En fait, tu croyais que c'était gratuit.
Non, quoi. Je suis venu chercher mon cadeau justement.
C'est ça. Tu peux rêver, monsieur.
Le coach, il a été touché, mais il est venu quand même les mains vides.
Ça, c'est des phrases qui touchent. Hein,
c'est des phrases.
Ça fait mal.
Tu crois que nous, on souhaite des anniversaires comme ça gratuitement là? Nous, non, on mais... veut quand on souhaite un anniversaire.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un événement, coach, il y a le champagne.
Mais bien sûr.
D'accord.
Donc, je
vais ramener le champagne pour une.
Non, mais la prochaine fois, tu viens pas. C'est pas.
Si le Bénin bat le Togo la prochaine fois, peut-être que.
Oh, oui. Oh, mais ça, on ça, fait ça, la bise ça, donc c'est... à Nasreddine. Hein.
Exactement.
Voilà.
Ça, c'est facile.
La bise à Hélène, mais ce sera après, quand on n'aura pas fait de conneries. C'est parti.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, c'est pas nous qui organisons, c'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt.
Voilà. Donc, messieurs, on remercie. Cette fois-ci, je vais le dire vraiment. Yasukali. Hein, bon, donc, ouais. Donc ça, c'est clair et net. Messieurs, alors, vous venez d'entendre quelqu'un qui est le patron de la Confédération africaine de football. Il dit bien. Donc, maintenant, on est sûr de nous qu'il n'y a pas de plan B. Ce sera le Cameroun qui devrait organiser. À moins que. Ouais. Que le Cameroun ne puisse pas, doyen Willy.
Oui, mais moi, en l'écoutant, à chaque fois qu'il sortait concernant cette organisation de la CAN, c'est lui qui me donnait l'impression qu'il y avait un plan B. Donc, si aujourd'hui il sort en remerciant Samuel Eto'o, je ne comprends rien du tout.
Alors, c'est la première, justement, ce qui est problématique, c'est de dire je remercie Samuel Eto'o. Il ne remercie pas la fédération camerounaise. Il ne remercie pas. Notre papa, le président de la République, ouais. Mais il remercie Samuel Eto'o.
Personne.
Samuel Eto'o, Hakim.
Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Dans le cadre de ce dossier qu'on suit dans Tout Feu Tout Foot depuis maintenant quelques mois, c'est vrai que c'est une affaire que l'on suit de très près avec un œil vigilant sur ce dossier CAN 2019. Cameroun ou pas. Là, en tout cas, il a effectivement retiré tous les doutes qui laissaient eh bien, peser sur l'organisation de cette CAN donc, au Cameroun. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant, c'est assez... moi, je pense que c'est tous les déboires qu'il y a eu, toute l'encre qui a coulé autour de cette affaire jusqu'à cette intervention d'Ahmad, qui lui a montré qu'il fallait qu'il s'exprime et qu'il mette à plat les choses en disant clairement que cette Coupe d'Afrique ne sera pas organisée ni en Afrique du Sud ni au Maroc, mais bel et bien au Cameroun, parce que c'est aussi respecter l'organisation, la fédération, même s'il parle effectivement à une personne en disant, en la remerciant, Samuel Eto'o plus précisément. Je pense qu'il aurait aussi dû peut-être remercier les instances dirigeantes du football camerounais au lieu de remercier directement une personne en la matière. Donc ouais, là, Samuel Eto'o.
Président, votre collègue.
Non, moi c'est... J'ai une question à poser au président de la CAF, une seule question, s'il nous écoute.
Ah, il nous écoute, il écoute.
Vous savez que quand la CAF confie l'organisation d'une compétition à un pays, il y a un comité de contrôle de la CAF, et dont les membres sont désignés par le président de la CAF et autres. Mais qu'est-ce qui fait du rapport de ce comité de contrôle qui va souvent sur le terrain et va voir les infrastructures? Est-ce que, à quel état d'avancement sont les infrastructures et autres? Qu'est-ce qu'il fera de...
Mais justement, moi, j'ai justement des échos par rapport à ça, puisque même certains, je veux dire, du comité de contrôle sont étonnés qu'il y ait des sorties de la part du président Ahmad Ahmad, parce que eux qui sont sur place ou bien eux qui vont sur les chantiers, sur les terrains, ne donnent pas un avis aussi négatif par rapport au président de la CAF.
Oui, mais ce qui me fait peur, moi, par rapport à cette sortie-là, c'est-à-dire qu'il présente, comme disait Hakim, on est maintenant sûr que ça va se passer au Cameroun. Moi, ça m'inquiète plus que par rapport à ce que Hakim vient de dire, parce que là, il vient de sortir en disant que merci à M. Samuel Eto'o. Si demain, il revient et nous dit que excusez-moi, Samuel Eto'o m'avait trompé, vous comprenez? Parce que se basant sur Samuel Eto'o, ce n'est pas crédible. Pour moi, c'est ce que c'est comme ça que je vois les choses.
Samuel Eto'o n'est pas crédible.
Mais la question... Se basant sur un individu, parce qu'il y a un comité...
Sur une personne, oui.
La question qu'il faut se poser... Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Samuel Eto'o ramène dans son avion, je vais dire ça comme ça, M. Ahmad Ahmad et quelques membres de la CAF? Est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui a mandaté Samuel Eto'o de jouer ce rôle? Ou est-ce que c'est Samuel Eto'o lui-même qui, de son propre chef, est allé ramener Ahmad Ahmad?
Pour lui dire de
elle est intéressante, la question de Souleymane Akindélé, parce que ça soulève effectivement des suspicions. On se dit effectivement que peut-être il y a eu une affaire qui a été gérée par un joueur professionnel en la matière. Donc là, c'est effectivement Samuel Eto'o. Même si sa notoriété n'est plus à faire, ça reste quand même étrange. Ça soulève des doutes. On se pose des questions. Et cette question-là, elle est importante, Coach Lamine. Pourquoi ? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction de cette émission, pourquoi Ahmad ne va pas effectivement à la rencontre de la Fédération Camerounaise de football, même si ça a peut-être été fait, ne remercie pas effectivement dans son discours que l'on vient d'entendre dans Tout Feu Tout Foot, eh bien directement la Fédération Camerounaise de football? C'est un peu manquer de respect aux instances dirigeantes du football camerounais.
Mais écoutez, moi sur ce débat-là, on en a déjà beaucoup parlé, on va continuer d'en parler encore. Je rejoins un peu tout ce qui a été dit en plateau. Moi, la chose qui fait plaisir à entendre, c'est que moi, là, il fallait que le président de la CAF, monsieur Ahmad Ahmad, il fallait qu'il lève un peu le voile, puisqu'on on l'entendait beaucoup parler par médias. Non, pas le Cameroun, c'est Cameroun, oui, non. Donc là, il fallait qu'il parle. Donc là, il s'est exprimé. Maintenant, est-ce que ça jette pas du discrédit sur la fédération camerounaise, puisque là, il est passé par Samuel Eto'o. On sait qui est Samuel Eto'o, ce qu'il représente pour le football camerounais, africain et mondial. C'est comme s'il s'était adressé juste à Roger Milla, par exemple. Et voilà, donc ça discrédite, pour moi, ça jette du discrédit sur la fédération camerounaise. Et ça prouve, mais c'est plus à prouver, voilà, l'importance qu'a Samuel Eto'o, puisque on sait qu'il est très influent. Et c'est ça qui me dérange un peu, ce bisbille entre les deux.
C'est une mauvaise communication. Je pense que quelque part, il aurait fallu le faire officiellement.
Peut-être que
c'est une question qui lui a été posée rapidement.
Par un journaliste, bien sûr. Ouais.
Mais bon, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous battre pour que la Coupe d'Afrique des Nations de football se fasse au Cameroun. Ça fait depuis 1972 que ça n'a pas été le cas. Est en train de se battre et en train d'organiser avec tous les moyens du bord.
Ils sont champions d'Afrique en titre.
Le Cameroun, comme l'a dit Christian, et coach Lamine, champion d'Afrique. C'est bon, faut arrêter de lever effectivement des doutes sur la capacité d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. La semaine dernière, j'ai eu Choukri Alaoui par téléphone, journaliste et correspondant pour Tout Feu Tout Foot depuis le Maroc. Et il me disait, Hakim, écoute, on a effectivement des informations au niveau des instances dirigeantes. Je parle de la Fédération marocaine de football, qui laisse penser que peut-être avant effectivement cette information donnée par Hamad, ça pourrait se faire au Maroc. C'est quand même grave. Maintenant, effectivement, là, ça lève les doutes, cette information-là. Et cette interview-là, coach Lamine, elle lève les doutes d'Hamad. Mais on aimerait bien, effectivement, l'entendre de vive voix dans Tout Feu Tout Foot. Et pourquoi pas l'inviter pour qu'il puisse s'exprimer, afin qu'il puisse éclaircir un petit peu cet aspect-là d'accueillir ou non la compétition là-bas.
Oui, Souleymane.
Oui, ce que je voulais. Là, on est passé à 24 équipes. Je crois. Donc l'organisation de cette compétition sera encore beaucoup plus difficile.
Exactement.
Donc qui demande beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'hôtels et autres. Est-ce que réellement au jour d'aujourd'hui, est-ce que le Cameroun est prêt? Parce que avec la déclaration que Monsieur Hamad nous fait lors de cette audience avec le président Paul Biya, il nous dit clairement qu'il n'a aucune raison de retirer la CAN au Cameroun. C'est-à-dire que quand il nous dit ça, c'est-à-dire que pour lui, tout est en bonne voie. Demain, il ne faudrait pas qu'il vienne dire que le Cameroun n'est pas prêt. Alors là,
c'est quelque chose qui lui a été promis par le chef de l'État. Le chef de l'État, ou peut-être futur chef de l'État, Paul Biya, lui a dit que le Cameroun sera prêt à l'instant T. Attendons donc.
La parole du président du pays, effectivement, du futur président, elle est forte.
Hakim, tu parlais du Maroc qui est prêt à accueillir la CAN, mais lors du CHAN, le Maroc a précisé qu'il est prêt à aider le Cameroun.
Bien sûr.
Donc moi, je ne comprends plus rien.
Bon. Non, c'est compliqué cette histoire, mais c'est une affaire, effectivement, je pense, coach Lamine, à suivre, parce que, à mon avis, on va encore avoir des remous, on va encore avoir des nouvelles informations par rapport à cette affaire, l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En tout cas, moi, j'aimerais bien entendre, effectivement, Hamad sur ce plateau pour qu'il puisse s'exprimer sur cette affaire, parce que ça reste un vrai casse-tête. Et
nous connaissons les chargés de communication de la Confédération africaine de football.
Oui.
Bah écoutez, nous sommes disposés à les écouter et puis il y a pas de problème. On va aller rapidement avant de passer sur autre chose, aller du côté du Standard. Donc on me dit que c'est pas encore prêt. Alors, messieurs, Christian Chango, on va justement aller du côté de la Coupe d'Afrique des clubs champions.
Oui.
D'accord, et la Coupe de la CAF, pour voir un peu comment ça s'est passé. Et ça a été le week-end dernier.
Exact, c'était la semaine dernière, coach. C'était mardi et mercredi, donc mardi 2 octobre et mercredi 3 octobre. Donc, Ligue des champions africaines et Coupe de la Confédération africaine. Donc, c'était les demi-finales à l'affiche. Et donc, en Ligue des champions, Al Ahly était opposé à Sétif, victoire d'Al Ahly 2-0. Et dans l'autre demi-finale, Primeiro de Agosto face à l'Espérance de Tunis. Et bah, c'est Primeiro de Agosto qui continue son bonhomme de chemin, le club angolais, qui a battu l'Espérance Tunis 1-0. Ça, c'est pour les demi-finales de la Ligue des champions africaines.
Alors justement, on va en parler de cette équipe quand même surprenante du Primeiro de Agosto dans un stade hyper plein avec un but, Sétif l'a échappé belle. Hein. Ça aurait été beaucoup plus grave parce que, avec les occasions que les Angolais ont ratées, ça aurait été.
Tunis a eu chaud, l'Espérance Tunis a eu chaud.
Oui, mais le passage de Primeiro de Agosto n'est pas une surprise. Tu sais très bien, tu connais bien l'Angola, tu y vas souvent. Mm-hmm. Donc, c'est un pays très organisé au niveau du sport. dans tous les sports, c'est un pays très organisé. On a vu le parcours de l'Angola à la Coupe du Monde. Ils n'étaient pas vraiment, ils n'ont pas été ridicules à la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas du tout une surprise si on connaît bien ce qui se passe en Angola en qualité de football.
Oui.
Donc, le 1er de agosto qui a éliminé le Mazembe. Mazembe, c'est une foudre de guerre sur le plan continental. Donc, cette équipe qui fait son bonhomme de chemin en battant l'Espérance, un grand d'Afrique, mais bravo à cette équipe.
Christian Chango, oui.
Oui, sur le 1er d'agosto, écoutez, sur la demi-finale qu'on a regardé avec attention, déjà, oui, le stade, magnifique, en rempli, belle ambiance en tribune. Et j'ai été surpris, pas par Primero d'Agosto, puisque comme l'a rappelé justement Willy Dorkono, ils ont sorti le TP Mazembe, ça c'est pas par hasard. Et j'étais surpris par l'Espérance Tunis en fait, qui est venue. Pour moi, c'est.
Est-ce qu'ils les ont pas pris de haut justement? Parce qu'on a vu une équipe de l'Espérance de Tunis, on a vu.
Moi, je pense.
L'expulsion. Je crois, il me semble qu'il y avait même une expulsion.
Oui, oui, c'est ça, coach.
Du capitaine.
Ils sont venus. Pour moi, quand je les ai vus, je me suis dit, ils vont venir pour attaquer. Mais en fait, pas du tout. Ils sont venus pour resserrer le bloc, pour défendre. Et au fur et à mesure que le match se déroulait, ils subissaient des vagues, des pressions incessantes de l'équipe angolaise qui jouait sans complexe. Et ils ont pris un but, mais ils auraient pu en prendre beaucoup plus.
Oui, donc, c'est bien ce que j'ai dit.
J'étais très surpris. Après, c'est 90 minutes. Ils ont perdu à l'extérieur. Il reste encore le match retour chez eux le 24 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas encore fini. Mais sur ce match-là, à moi, Primero d'Agosto était largement au-dessus. Et ne gagner que 1-0, je pense que les joueurs devaient avoir énormément de regrets, puisqu'ils ont eu vraiment énormément d'occasions pour obtenir un score bien plus large.
En tout cas, c'est une première pour l'Angola. Alors, justement.
Oui, coach Lamine, moi je suis super content de cette équipe, Primero de Agosto. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. En fait, ils ont effectivement, la première c'est effectivement qu'ils ont sorti le grand de la RD Congo et l'un des plus grands d'Afrique, le tout puissant Mazembe, qui a bûché sur cette équipe angolaise et qui ne s'y attendait pas du tout. Marco Momo nous avait expliqué la semaine dernière que le tout puissant Mazembe avait pris un petit peu de haut cette équipe de Primero de Agosto.
C'est comme ça.
L'Espérance de Tunis, c'est la même chose.
A fait exactement la même chose.
Ils ont fait la même erreur. Et là, ce qui est encore plus grave, coach Lamine, ce qui va être compliqué, c'est pour la deuxième raison, c'est que l'avantage pour le Primero de Agosto, là où il est, c'est que l'Espérance de Tunis a perdu son capitaine sur un carton rouge, qui fait qu'il sera exclu au match retour. Ce qui veut dire que, bien sûr, ça va être compliqué en Tunisie. Salim, Layouni, on lui fait un coucou s'il peut nous contacter d'ailleurs pour nous donner ces informations. Il y a effectivement cette complication-là. C'est le 12e homme tunisien que tu connais bien, Lamine, parce que t'es souvent là-bas dans le cadre de ces belles compétitions africaines. Willy également dans le cadre de ces travails d'agent de football. Mais ce qui va être compliqué, bien sûr, ça va être le 12e homme. Mais là, perdre son capitaine. Match retour, jouer face à une équipe tunisienne là-bas, je peux te dire que les Primero de Agosto, c'est vrai, ça va être difficile parce qu'ils ont marqué qu'un seul but. Mais ils ont toutes leurs chances de se qualifier en finale de Ligue des Champions face à l'Espérance de Tunis parce que là, ils ont perdu très très gros sur leur terrain.
En tout cas, on le verra bien, mais moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que l'Espérance de Tunis va apprendre de ses erreurs.
On parie combien, coach Lamine ?
Non, pas on couscous, justement. On va aller du côté du Standard. Michel, vous êtes avec nous, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup de me recevoir. Je voulais juste revenir sur l'intervention du président de la CAF,
ouais.
Avec Samuel Eto'o à la présidence du Cameroun. Je voulais tout simplement dire que nous ne sommes pas dupes. Peut-être que c'était un plan foireux de communication que le président a eu. Parce qu'il faut être honnête, il y a eu beaucoup de bruit dans cette histoire, est-ce qu'on organise ou pas. Aujourd'hui, curieusement, avec la situation politique qu'on connaît, le président, il se fait inviter par un footballeur, et puis il fait sa déclaration, le footballeur fait sa propre déclaration, alors qu'au Cameroun, même, il y a des responsables comme Joseph-Antoine Bell qui siège dans la commission dont vous avez fait allusion.
C'est vrai.
Qui a fait un point de presse à Yaoundé la veille en avertissant que la commission était passée, elle devait repasser. Je crois qu'il ne faut pas que les gens confondent le football avec autre chose. Le football, c'est pour s'amuser. Mm-hmm. Ce n'est pas pour tromper les gens. Donc, c'était juste mon...
C'est une bonne intervention, Michel. Je vous rejoins, voilà. Moi, Michel. Michel, est-ce que vous ne pensez pas que justement, le président de la CAF a manqué un petit peu de tact par rapport à la Fédération Camerounaise de Football?
C'est évident. C'est évident parce que là, on est sur un problème d'homme. Samuel Eto'o, c'est un très grand footballeur. Nous sommes tous d'accord. Ouais. Mais est-il habilité à traîner le président de la CAF à Yaoundé pour dire qu'il n'y a pas des nids de poules sur les routes? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'organisation de la CAF? Personne n'est dupe. Nous connaissons tous comment les choses fonctionnent. Ces gens n'ont encore rien dit depuis qu'on dit on va pas organiser, on va organiser, les stades sont finis, les stades ne sont pas finis. Aujourd'hui, quelques jours avec la situation politique, il y a un footballeur, il y a des grands footballeurs au Cameroun, tels que Roger Villa, tels que ceci, cela. Samuel Eto'o, il vient, on remercie après Samuel Eto'o, on ne remercie même pas. Et la fédération qui est en train de se battre pour que le tournoi ait lieu, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards boiteux.
On dit sauvage.
Voilà, merci. Tout ce que vous voulez dire.
Merci pour votre intervention.
Merci Michel.
Merci d'être venu sur la radio africaine. Je rappelle 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout dans le monde. Vous nous écoutez sur le 107.5 à Paris, à Melun sur le 92.3, à Mantes-la-Jolie sur le 87.6 et également en DAB à Lille, DAB+, hein, à Lille ou sur Internet. Merci beaucoup.
Au revoir. Merci Michel.
Alors, messieurs, on a parlé un peu donc de ce Primeiro de Agosto. Nous avons aussi un deuxième match, Christian Shango. Ce deuxième match, c'était celui des Égyptiens d'Alali.
Oui, Alali face à Sétif et victoire donc d'Alali, comme je l'ai dit, 2-0. C'était un match équilibré. Alali quand même a pris un peu le pli rapidement. C'est eux qui ont largement dominé quand même cette rencontre. On a vu beaucoup d'attaques, beaucoup de pression de la part des joueurs d'Alali avec beaucoup de vagues et ça, en première mi-temps, ça a été réglé quoi. Première mi-temps, but à la 20e, but à la 40e minute de jeu. L'équipe de Patrice Carteron donc était quand même bien au-dessus de Sétif, qu'on n'a pas retrouvé comme il y a 2-3 années quand ils ont soulevé le trophée continental. Donc si Alali avait eu un peu plus de réalisme, encore une fois c'est ce qui fait défaut, il y aura eu une belle valise comme on a vu hier soir au Parc des Princes. Donc vraiment sur cette rencontre, autant sur le Primeiro de Agosto Espérance Tunis, il y a encore match, mais sur ce que j'ai vu de Sétif, ça va être compliqué. Après le retour, ça se joue en Algérie à Sétif et on sait qu'il y aura une grosse ambiance et ça peut transcender les joueurs et faire renverser la tendance. Donc je n'enterrerai pas Sétif, mais quand même Alali a fait une forte impression et des 4 équipes présentes en demi-finale, pour moi c'est Alali qui a fait la plus grande impression en grands champions qu'ils sont.
Tout à fait. Maintenant, on va aller du côté du Standard. Juste, Abdouchou, vous êtes avec nous avant de vous donner la parole à Kim. Bonsoir, Abdouchou.
Allô?
Oui, on vous écoute. Baissez votre radio.
Oui, bonsoir, vous allez bien?
Ça va, Abdouchou.
Oui. Je tiens à passer le bonjour à l'association Jeunes Mon, le cœur sur la main, qui est sur le Gare de Lyon et qui font un super bon travail en aidant les sans domicile fixe. C'est et les deux membres chefs qui sont Dounia et Khalil qui font un super bon travail. Et que je participe souvent à cette association et c'est que je conseille à tout le monde. Si.
Voilà, ceci dit.
Pour la CAN 2019. Moi, je pense que j'y crois pour le Cameroun, parce que le Cameroun, je pense qu'ils voudront l'organiser, parce que faut pas oublier que la dernière CAN, ça s'est passé au Gabon, et comme les deux pays, je pense que les deux pays sont côte à côte, quoi, et je pense qu'ils auront l'envie de représenter l'Afrique comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, que ça s'est super bien passé, qu'ils vont tout montrer, ils vont tout faire pour représenter le continent, pour le monde entier.
Voilà, on a bien compris.
Merci beaucoup, Abdouchou.
Merci, ouais. Abdouchou. Alors, donc, messieurs, Christian Chango, après la Ligue des Champions, il y a eu, bien sûr, la Coupe de la CAF.
Oui, la Coupe de la CAF, également les demi-finales. Les premières demi-finales entre Al Masry et le Vita Club. 0-0 entre les deux équipes, ça s'est joué en Égypte, hein, du côté d'Al Masry. Et dans l'autre demi-finale, Enyimba face au Raja Casablanca. Victoire du Raja au Nigeria, 1-0 face à Enyimba.
Alors, on va pas tarder, on va rapidement aller du côté donc, de notre correspondant au niveau de la RDC pour savoir qu'est-ce qui se passe avec l'AS Vita Club. Est-ce que l'AS Vita Club peut y croire, mon cher Marco?
Marco Momo.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Je pense que l'AS Vita Club peut encore y croire et garde ses chances pour une qualification en finale de la Coupe de la Confédération, surtout que Vec Club est habitué à ce genre d'exercice. Nous l'avons vu que Vec Club cette saison n'a perdu aucun match vraiment en ce qui concerne ses prestations à domicile. Mais prudence exige. Vec Club a fait quand même cette année un match nul avec but qui lui a coûté l'élimination de la Ligue des Champions. C'était contre le club marocain de Difa Hassani et où il y a eu 1-0. On s'attendait à voir Vec Club phénoménal à Kinshasa. Et derrière, il y a eu ces 2-2 qui a été fatal face à la formation pour l'AS Victoria Club. Donc là, il y a encore une certaine prudence de Vec Club parce que 0-2, c'est pas une assurance tout risque. Les cas les plus récents est celui de la formation du Tupisa Mazembe Anglebert qui a réalisé un match nul du 0-2 face à Primeiro do Agosto, mais qui s'est fait accrocher un nul avec but qui a coûté l'élimination du Tupisa Mazembe Anglebert. Jusque-là, les morales restent au beau fixe du côté des clubs, mais il y a cette prudence, cette mesure de prudence qui reste encore dans l'effectif des clubs, puisque 1-0, les clubs est dehors.
Ah, ça, c'est le cas de le dire. Mais qu'est-ce qu'il en pense, lui, notre ami
Florent
Ibengué, mon cher ami?
Oui, justement, pour Florent Ibengué, il faudrait pas travailler avec cette pression. C'est quelqu'un qui est du genre, qui calme les esprits. Il ne veut pas travailler sous cette pression face à Al Masry. C'est vrai, déjà, avec le club, réaliser un tel parcours, c'est exceptionnel au regard de cette faveur que le club recevait au départ de la compétition. Le club n'avait aucune faveur, contrairement au TP Mazembe Anglebert, je l'ai dit, dans nos récentes émissions de Tout Fait Tout Foot. Le club n'avait pas cette confiance encore, vu que c'est un groupe jeune, c'est un groupe qui a été renforcé par certains joueurs qui n'avaient pas de l'expérience. Mais avec le est arrivé quand même à cette étape de la compétition, Florent Ibengué ne veut pas se mettre une pression inutile pour rien, puisque déjà, ce qu'avec le a réalisé, c'est un exploit. Personne ne les attendait à ce niveau de la compétition. Ils viennent quand même également d'une saison exceptionnelle avec les titres de la Ligue nationale de football. Et là, ils sont en route pour remporter la Coupe de la Confédération, peut-être être en finale après cette finale de 2014 ratée par les Moscovites.
Ah, d'ailleurs.
Oui, bonsoir, Momo. Et moi, je vois que le V-Club...
Oui, bonsoir, Dan.
Bonsoir. Le V-Club a les moyens de réagir. Donc, un club qui est dans la réaction comme ça est un club de coupe. Donc, moi, j'ai vraiment confiance dans ce club parce que j'ai vu que deux fois, ils étaient menés dans un match et ils reviennent toujours. Donc, moi, je trouve que le club de M. Ibengué peut aller loin dans cette compétition.
Justement, avec le peut aller loin dans cette compétition, puisque avec le l'a démontré, comme vous l'avez dit, vous allez vous rappeler de ces matchs contre la formation de la SEC Mimosa à Kinshasa, avec le a été mené et puis avec le est revenu. Oui. Vous allez également vous rappeler, pas plus tard, en quart de finale, où avec le a joué contre une formation marocaine. Avec le a encaissé, c'était la Renaissance sportive de Berkane, avec le a encaissé et avec le est revenu. Il y a également cette force collective d'avec le qui est capable de renverser une situation compliquée à Kinshasa, mais il faudrait toujours se montrer un peu à trop prudent, puisque les récentes prestations des clubs, j'ai rappelé ici les 2-0 réalisés contre Difa Hassani El Jadidia, j'ai également rappelé à cette victoire petite face à la formation contre la Mancha. Donc, le club aujourd'hui doit en tout cas faire le nécessaire pour s'imposer. L'avantage qu'a cette équipe, c'est de recevoir au match retour à domicile, une formation d'Al Masry avec le Batignon en échec. Mais je vous assure que la partie ne va pas ressembler à un long fleuve tranquille pour le Moscovite.
Merci, Momo.
Marco Momo, Hakim Djellouat, concernant V-Club de notre grand frère Florent Ibengué, ça reste le dernier club là en Coupe Continentale. Quels sont les dires de la presse par rapport à la performance du Vita et les chances justement de qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération?
Et puis juste pour ajouter aussi, juste pour ajouter, Momo, qu'est-ce qui a changé au V-Club par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a eu des recrutements qui font qu'aujourd'hui, cette équipe-là est en train de vraiment survoler un peu ce championnat et puis certainement cette Coupe de la CAF?
Oui, justement, côté V-Club, certes, il n'y a pas eu un grand mercato du genre à faire pâlir n'importe qui, mais il y a ce groupe qui s'est encore beaucoup plus habitué. Quand vous regardez des garçons tels que Shadrack Muzungu, vous regardez également des garçons qui ont gagné en confiance, tels que le Fabrice Ngoma Luamba, des garçons tels que Glodine Gonda, Jésus Muloko du Capel, qui a fait Renaissance et puis qui est arrivé. Il y a également des garçons tels que le Jean-Marc Makusu Mundele qui est en pleine confiance. C'est ce qui a changé du côté avec le par rapport à cette formation des V-Club de la saison passée et cette formation des V-Club qui évolue cette saison en Coupe de la Confédération. Il y a cette grande, alors très grande différence. C'est que les joueurs ont pris de la maturité, les cas de certains cadres qui ont essayé de combler certaines absences en défense, tout comme en attaque, quand chaque fois il y avait un joueur qui était blessé ou suspendu du côté des clubs. Également, s'il faut que je réponde à la question de Hakim, la presse est en train d'enchanter là, c'est Victoria Club tout naturellement, puisque au départ on savait que le tout-puissant Mazembe nous a habitués avec deux coupes de la Confédération. On voyait le TP Mazembe Angleterre arriver en finale de cette Ligue des Champions ou arriver en finale d'une compétition interclub. Mais aujourd'hui, ce qu'a fait l'AS Victoria Club, c'est tout simplement surprenant, et la presse est en train d'éjeter des fleurs par rapport à ce qu'a fait Jean-Florent Ibengué. Je parlerai également de ce que nous avons écrit, par exemple, sur Jean-Florent Ibengué, ses parcours exceptionnels sur notre site internet. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de venir au-delà de cette Ligue nationale de football remportée. Jean-Florent Ibengué veut aller jusqu'au bout et remporter la Coupe de la Confédération.
Ouais, mais merci Marco Momo pour cette analyse. De toute façon, on suivra de très très près ce match avec vous lors de la prochaine émission Tout Foot Tout Foot.
Merci Momo, merci d'être venu sur la radio africaine. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour les résultats. Merci beaucoup.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Christian Chango, on va parler de la liste des listes des équipes nationales que nous avions oubliées. Et on va commencer par quelle équipe.
Je vous ai proposé 5 listes. On a l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Cameroun et le Mali. Vous voulez choisir?
Bah écoutez, la Côte d'Ivoire, comme il y a le président Kindele ici.
Ok, et ben on commence par la Côte d'Ivoire et une absence notable dans la liste proposée par Ibrahim Camara, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui vont affronter la Centrafrique. Donc c'est Gervinho qui n'est pas présent, le nouveau joueur du côté de Parme en Italie, qui n'est pas présent dans la liste d'Ibrahim Camara pour la Côte d'Ivoire. On va donner donc les 25 joueurs, les 25 joueurs sélectionnés. Donc Sylvain Gbo, Sangare Brada Ali, Abdoul Karim Sissé, Nicolas Thié, Eric Bailly, Mamadou Bakayoko, Dabila, Kaoudio Yves, Serge Aurier, Wilfried Canon, Ghislain Konan, Adama Traoré, Ismaël Traoré, Cheikh Doucouré, Franck Essier, Seri Dier, Jean-Michel Seri, Ibrahim Sangaré, Roger Assalé, Bakoun Bayo, Maxwell Cornet qui a fait un grand match hier du côté du Parc des Princes, Max Alain Gradel, Jonathan Kodja, Nicolas Pépé qu'on voit briller toutes les semaines et qui a fait mal à Saint-Etienne, et Wilfried Zaha.
Alors, président Kindele, cette liste, elle vous fait quoi? L'absence déjà de votre ami avec qui vous étiez toujours en boîte de nuit, Gervinho, ne fait pas partie?
Non, j'ai jamais été en boîte de nuit avec Gervinho. Certes, j'ai eu à faire une interview avec lui, mais jamais sur une piste de danse.
Ne te laisse pas faire.
D'accord. Non, mais bien sûr. Alors, non, mais cette liste que Monsieur Ibrahim m'a donnée, ce sont les joueurs qui ont été appelés pour le match précédent. Donc, il rappelle les mêmes.
Mais il n'y a aucun joueur du championnat ivoirien. Aucun.
C'est un choix.
Oui, mais quand même.
C'est un choix.
Ouais, même pas un gardien de but remplaçant.
Oui, mais il y a Cissé Abdoul.
Cissé Abdoul de la SEC. Non, de la SEC, Mimosa, Cissé, coach Lamine.
Il est en troisième gardien,
oui,
je crois.
Oui, troisième gardien.
Donc, voilà, c'est un choix de M. Ibrahim de le faire.
Mais c'est vrai
alors,
que, ouais.
On attend les résultats à la fin.
Ouais, mais
parce que là, il fait une sélection comme si on n'avait pas de championnat dans ce pays, la Côte d'Ivoire, alors qu'on a un championnat.
Ça joue.
Contrairement à d'autres pays, on a un championnat en Côte d'Ivoire. Et là, on nous appelle qu'un seul joueur pour cette sélection. On va se poser des questions.
Et qui est le troisième gardien, ouais. C'est vrai que.
Président, qu'est-ce qui se passe dans le football donc de la Côte d'Ivoire? Il y a des bagarres, il y a des problèmes avec le président, votre ami président, comment il s'appelle encore Donnez-moi son nom.
Je rappelle que.
Vous ne voulez pas me donner votre nom. Vous voulez pas me donner son nom.
Monsieur Sidi Diallo n'est pas mon ami.
Bon, d'accord. Vous
voilà,
êtes tout
il est président de la Fédération de football, il n'est pas mon ami. Ce qui se passe aujourd'hui dans cette fédération au niveau du football ivoirien, c'est des querelles de personnes. Voilà, c'est des querelles de personnes. Aujourd'hui, on constate que on n'aime pas la tête d'une personne, donc il faut le dégager. Il faut quand même rappeler, je ne fais pas l'avocat du diable, hein, mais il faut quand même rappeler que depuis 23 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas remporté de CAN. Il est arrivé avec un programme comme ceci en disant « je vais remporter cette CAN ».
Qui ? Bon, le président ?
Le président Sidi. Il a remporté la CAN. Maintenant, il fallait continuer en jetant les bases du football. Mais bon, c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs dans son organisation et autres. Maintenant, s'il y a des couacs, il faut l'aider à remettre le football sur pied. Ouais. Je suis d'accord
Est-ce qu'il écoute les acteurs du football? Parce qu'il y a des présidents qui ont...
Il y a un comité qui est venu à tout foot.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une page de pub. Mm-hmm. On va revenir parce que c'est très important. Il y a beaucoup de présidents, de présidents de clubs qui ont été suspendus un an, qui ne sont pas d'accord avec le président, qui sont sanctionnés au niveau disciplinaire. On se retrouve dans un flou dans ce football ivoirien. Alors 0155 07 58 00 aussi si vous voulez participer à ce débat.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
Sur la radio africaine, bien sûr, avec Christian Chango, avec le doyen Willy Derkono, Hakim Djelouad et bien sûr le président Akindele avec nous ce soir. Et nous sommes en train de vous décortiquer un peu cette liste des éléphants de Côte d'Ivoire qui, à la limite, écoutez, c'est une liste. Je sais pas. Je suis sceptique quand même parce que.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas mon ami Gervinho.
Oui, mais il y a de nouveaux.
S'il n'y a pas Gervinho, il y a d'autres joueurs capables de remplacer Gervinho.
Ouais, mais
il y a
Wilfried
des joueurs frais.
Wilfried Zaha qui s'est blessé, qui est un peu dans le style de.
Dans cette liste, pour moi, il n'y a que deux joueurs qui sont bons.
Lesquels ?
Trois. Eric Bailly de Manchester United.
Qui est tout le temps sur le banc ?
Non, pas du tout. D'accord. Ensuite, il y a Pepe Nicolas qui actuellement est en train de.
Bien jouer.
Jean-Michel Seri, même lui, s'il est malade, il est bon.
Je l'adore, lui.
Ouais, et puis, tout le reste. Maxwell Cornet, alors quelle catastrophe. Lui, il rentre et il ressort. Alors donc, il faut arrêter.
Non, mais coach, il faut savoir que. Ces joueurs, ces éléphants ont été marqués quand même par leur élimination de la Coupe du Monde. C'est pas facile d'être éliminé dans ces conditions et revenir. Là, je vois qu'ils reviennent progressivement. Maintenant, on attend, on espère qu'ils vont se qualifier pour cette CAN 2019. Et ne pas se qualifier pour cette CAN 2019, ça sera une catastrophe.
Oui, mais Wilfried Zaha, il joue où ?
Wilfried Zaha joue en Angleterre à Crystal Palace.
Mais bon. Il joue.
Il est bon, mais il revient de blessure.
Il est peut-être un peu brouillon dans son jeu, mais c'est un talent, on va dire, à l'état brut.
Bon, revenons à nos histoires du président de la fédération.
Cette histoire-là, moi, je vois que le président Akindele, il en connaît bien un bout. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire, moi, je suis de loin, je ne sais pas ce qui s'y passe. Mais quand on voit la période Jacques Anouma et la période après, c'est pas du tout beau à voir. La gestion, la communication, sur tous les plans. La Côte d'Ivoire de Jacques Anouma, c'était autre chose. Mais donc, le problème de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, c'est la gestion du football ivoirien qui dessert le football ivoirien.
C'est clair.
Ils ont les joueurs. Mais pourquoi ça ne marche pas ?
Et pourquoi ça ne marche pas, président Kylian?
Non, mais c'est vrai ce que Doyen Willy Dorque nous dit. La gestion de Jacques Hanouma a été une très bonne gestion. Il a mis, c'est-à-dire le football réellement, au niveau de l'équipe nationale, c'était professionnel. Tout était cadré, tout était carré, vous voyez. Et c'est sur cette base que M. Sidi Diallo a surfé pour pouvoir gagner cette CAN. Cette CAN que la Côte d'Ivoire attendait depuis 23 ans. Maintenant, aujourd'hui, l'on se rend compte que il y a une gestion, la fédération est gérée de manière opaque. C'est ce que les dissidents reprochent à Monsieur Sidi Diallo. Il faudra qu'on voie plus clair dans cette gestion. Cette gestion opaque n'arrange pas le football et c'est pour ça d'ailleurs que pour eux, hein, la Côte d'Ivoire n'a pas été capable de se qualifier pour le mondial. Le mondial dernier. Mmh. Voilà.
Hakim.
En fait, il y a une information. Il y a notre ami et confrère Franck Simon qui a étudié le cas il y a pas si longtemps. Là, il a écrit un papier dessus justement sur les divisions en fait de les dirigeants de la FIFA et les autres effectivement entraîneurs et présidents de clubs. Si on comprend bien en fait le dossier et le sujet. C'est qu'effectivement, il y a des primes aussi qui n'avaient pas été versées sur certaines compétitions. On a par exemple l'exemple, comme l'a souligné Franck Simon, que l'on salue d'ailleurs, et qui était venu dans Tout Feu Tout Foot pour s'exprimer sur le football africain. Il y a un club, c'est l'ASEC apparemment,
l'ASEC d'Abidjan,
qui a refusé de disputer la Super Coupe de Côte d'Ivoire contre le Stade d'Abidjan. Match normalement qui ouvre en fait la saison. Ouais. Et apparemment, c'est quand même fort de ne pas vouloir disputer une super coupe nationale.
Il y a peut-être des raisons aussi.
Ce sont ces raisons-là, coach Lamine. C'est qu'il y a en fait des choses qui ont été promises par rapport à des primes, etc. Et ça n'a pas été apparemment du tout géré d'une bonne manière, comme l'a dit Willy, comme le soulignait Souleymane. Et là, le problème, il est dangereux parce que on a effectivement une gestion de la Fédération ivoirienne de football qui n'est plus la même qu'auparavant, comme l'a souligné Souleymane, et ça pose problème. Et du coup, il y en a qui sont pas contents, ils sont mécontents, et c'est tout à fait normal et logique de revendiquer ça, coach Lamine.
Oui, mais de toute façon, on aura l'occasion d'avoir, bien sûr, notre ami de France Football,
Franck Simon.
Franck Simon, qui malheureusement n'a pas pu se dégager aujourd'hui parce que je l'ai appelé. Malheureusement, il n'a pas pu. Il était peut-être très occupé.
Ça serait aussi intéressant, je pense, d'écouter les membres que l'on avait conviés aussi ici, coach Lamine, de la SEC. D'Abidjan
d'écouter aussi le côté de Sidi Diallo, d'écouter l'autre partie.
Bien sûr, c'est important. Parce que là, on arrive à un stade, c'est un peu comme avec notre cher président Mamoutou Touré du Mali, oui. qui avait eu des problèmes avec d'autres membres de la fédération malienne de football, et où après, à cause de cette division-là, le championnat a été mis à l'arrêt. Ouais. Mais pourquoi prendre en otage tous ces clubs, tous ces joueurs, tous ces fans de football, alors qu'on peut s'asseoir autour d'une table, discuter, échanger, en faisant avancer les choses?
On va aller du côté du Standard avec Andy. Andy, bonsoir.
Oui, bonsoir, coach.
Oui, on vous écoute, Andy.
Bonsoir à toute l'équipe.
Bonsoir.
Ok, moi, je vais souligner un petit truc, non, au niveau du championnat ivoirien.
Ouais.
Moi, j'ai constaté depuis un certain temps que le championnat, c'est justement Abidjan.
Ouais.
Tous les autres clubs qui sont de l'intérieur, ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas d'équipe. Mmh. Ils n'ont pas d'équipe. Et puis, il y a certains clubs de l'intérieur qui jouent, qui reçoivent Abidjan.
C'est vrai.
Il y a Abidjan, plus de 4 clubs qui jouent dans le championnat. Tout ça, ça casse le rythme du championnat.
Mmh. Ouais, c'est bien ce qu'on est en train de dire, parce que là aujourd'hui on est en train de se poser beaucoup de questions. Le président de la Fédération ivoirienne de football est très contesté. Il y a des présidents de clubs comme celui du Stella, notre ami Big Togo, qui ne veut plus participer, qui a été suspendu d'ailleurs un an ou quelque chose comme ça. La SEC d'Abidjan, il y a le président, les présidents Zinsou aussi.
Non, le président Roger Ognien.
Ognien, oui, exactement, pardon. Qui aussi a quelques petits soucis avec toujours le problème de la commission de discipline. Donc c'est la raison pour laquelle on a vu un ancien joueur de l'ASEC d'Abidjan qui s'appelle Baki Kone, qui est devenu président. Donc il y a tout un programme. Et je pense que dans les jours qui viennent, avec Hakim, avec le doyen Willy, avec Souleymane, avec plaisir, bien sûr, s'il revient, et Christian Chango, nous allons vous faire un dossier du football ivoirien pour voir comment cette mésentente au niveau de la fédération est en train de faire chuter le football ivoirien. Ça, on vous le promet.
Alors qu'on a un football qui on le voit à travers les joueurs qui évoluent en Europe, à travers les joueurs qui évoluent en Afrique, dans le monde entier. On a un football qui est beau. Le football ivoirien, c'est un beau football. Faut arrêter de paralyser ce football là.
On va aller du côté du Maroc maintenant, cette fois-ci. Christian Chango avec Hervé Le Renard.
Oui, l'ami du président Souleymane Kindele, je crois, c'est ça.
De Choukri Alaoui.
Il a beaucoup d'amis. Excusez-moi, ils sont tous mes amis. Tous tes amis.
L'homme à la chemise blanche.
Ce sont tous tes amis.
Ouais, que on va désigner tes amis tout à l'heure.
Il faut le souligner, Souleymane Kindele a un très bon relationnel. Et ça, c'est important pour tout feu, tout foot.
Oui, mais parce qu'il avait les mêmes chemises.
C'est ça.
Ils ont le même équipementier, on ne va pas le citer.
Exactement.
Donc, le sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, donc, a donné sa liste des joueurs pour la double confrontation face aux Comores pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. On va donner donc la liste principale où il manque qu'un seul joueur, je le dis d'avance, c'est Amin Harit hein, qui s'est blessé avec son équipe de Schalke 04 du côté de l'Allemagne. Et donc en accord avec son sélectionneur, il a été préféré qu'il reste au repos du côté de son club pour qu'il se soigne. Là, on a vu des explications sur les réseaux sociaux de Monsieur Amin Harit et du sélectionneur Hervé Renard. Donc la liste alors des joueurs. Donc au niveau des gardiens, Mounir El Kajoui, Yacine Bounou, Ahmad Reda Tagnouati. Au niveau des défenseurs, Nabil Dirar, Marwan Da Costa, Marzawi Nousaïr, excusez-moi pas la prononciation, Gaznem Saïs, Hamza Mendil, Soufiane Amrabat, Achraf Hakimi, Aged Naïf. Au niveau des milieux de terrain, Karim El Madi Haroussi, Youssef Aïd Benasser, Mbarek Boussoufa, Mehdi Bourabia, Younes Belanda, Faisal Fajar qui joue du côté de Caen, Salahedine Saïdi qui lui évolue du côté du WAC Casablanca, et au niveau des attaquants, Nordine Amrabat, Hakim Ziyech, Ayoub El Kaabi, Khalid Boutaïb, Youssef El Nesri, Walid Azarou, Ismail Haddad et Abdelila Afidi, qui évolue, lui, du côté du Raja Casablanca. Donc, alors, pas de surprise dans la liste.
Non, non, mais c'est cette liste, quand on la parcourt, ça veut dire que l'homme à la chemise blanche ne rigole pas du tout. Il prend le match face aux Comores très, très, très au sérieux, doyen.
Oui, mais le Comores qui met en échec beaucoup de pays en ce moment, donc il y a de quoi prendre le Comores au sérieux, c'est tout. Comores qui fait match nul avec le Cameroun, match nul avec le Ghana, donc le Comores devient une très, très bonne équipe.
Oh ouais.
Bah, le Comores, coach Lamine, on a vu, hein, il y a effectivement des joueurs qui évoluent en troisième division, deuxième division dans certains pays et notamment aussi sur le continent. Mais Nasreddine s'était exprimé justement par rapport à cette sélection. Je crois qu'il y a un très gros travail de la part du coach, un très bon travail de la part de la fédération, même s'ils ont peu de moyens par rapport à d'autres nations. Je pense qu'ils peuvent rivaliser. Après, ça va pas être effectivement une partie de plaisir face aux Ivoiriens, parce que quand on regarde la feuille de match,
les Ivoiriens,
face aux Marocains, ça va pas être une partie de plaisir. Quand on regarde la feuille de match par rapport au Maroc, la plupart des joueurs sont des joueurs qui sont des titulaires. Hervé Renard a fait un choix tactique là qui montre en tout cas qui veut gagner face aux Comores et qui lâchera pas le morceau. Donc méfiance pour le Maroc, mais aussi attention pour les Comoriens, et je pense qu'ils ont les moyens de titiller les Marocains.
Ouais, titiller, on verra bien, hein, mais ouais. Ça vraiment.
tout cas, on voit dans les choix d'Hervé Renard qu'il est dans la continuité de ce qu'il a mis en place du côté du Maroc. Et Hervé Renard, lui, c'est on sait l'homme qu'il est, il respecte toutes les équipes africaines et il ne prendra jamais une équipe, un adversaire de haut. Et c'est ça qui l'inculque petit à petit dans la tête des joueurs marocains. Et on sent qu'eux adhèrent à ce discours et surtout ont envie de gagner. Et la liste, elle est vraiment similaire à ce qu'il avait déjà présenté avant. Et en termes de niveau de jeu, sur les deux dernières années, le Maroc est dans le top 3 des équipes africaines. Il présente ce qu'il y a de mieux en termes de rigueur défensive, en termes de technique. Il y a vraiment tout dans cette équipe pour que l'équipe aille le plus loin possible. Maintenant, il faut que les joueurs continuent d'être derrière la sélectionneur et que Hervé Renard continue son travail avec les Lions de l'Atlas. Mais cette équipe-là ne prendra pas les Comores... ne se croira pas supérieur aux Comores, ce serait une erreur pour eux et je pense qu'Hervé Renard va bien insister dessus pour que ils prennent les points qu'il faut pour aller au Cameroun en 2019 à la CAN.
Ça c'est clair, oui.
Ouais, non mais je remarque juste que nous avons trois joueurs locaux qui sont dans cette liste. C'est pour dire que Hervé Renard, lui au moins, il suit le championnat marocain.
Voilà.
Il suit le championnat marocain. Ces dates FIFA, quand ils finissent de jouer ces matchs de poule, il ne rentre pas chez lui, il revient pas en France se balader. Voilà.
Mais pourtant, il y a comme l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui est là-bas quand même. C'est un Ivoirien, mais
qui
voilà. Oui, mais exactement. Après, encore une fois, là, t'as parlé coach on a parlé du championnat de Côte d'Ivoire tout à l'heure. Le championnat marocain est peut-être supérieur au championnat ivoirien et il est plus structuré. Donc pour avoir des joueurs pour des joueurs qui prétendent à la sélection, pour moi du côté du Maroc, il y a la visibilité plus grande
Moi je dirais pas ça. Moi je dirais plutôt est-ce que Monsieur Ibrahim a les mains libres.
Ouais. Ah, pour l'instant il est intérimaire. Quand on voit son
est-ce qu'il a les mains libres pour nous sortir une feuille et il nous dira oui c'est moi qui ai décidé d'appeler réellement tous ces joueurs. Il y a tout ça aussi.
Oui, mais parce qu'on l'a vu l'autre fois, il n'a pas appelé Wilfried Zaha. Il y a tout un problème avec les parents, toute la famille Zaha. Donc
c'est vrai
que coach, je suis d'accord avec toi.
Juste une précision pour la Côte d'Ivoire, on a l'information qui est tombée, donc le défenseur donc Adama Traoré qui joue du côté de la Turquie, il s'est fait les croisés, donc il est remplacé par Abdoulaye Bamba, le latéral d'Angers. Donc bon rétablissement à Adama Traoré pour la Côte d'Ivoire hein, qui s'est blessé, donc rupture des ligaments croisés avec son club en Turquie ce week-end.
Monsieur Diarro, s'il vous plaît, on est avec vous, on vous écoute.
Bonjour, en fait, moi je vais juste parler de la CAN, l'organisation de la CAN au Cameroun en fait.
Ouais. Allez-y, on vous écoute.
Je me pose souvent la question, est-ce que les Camerounais, ils se rendent compte que chez eux, il y a une guerre en fait.
Ah.
Une guerre de quoi?
Ça c'est un peu...
Ouais, le nord du Cameroun.
La nation anglophone. Non.
Mais c'est là-bas qu'on va jouer.
Il y a une guerre là.
Quelle guerre?
Non, pour l'organisation de la CAN.
Vous parlez de quoi? Boko Haram ou de la zone anglophone?
Guerre politique.
La zone anglophone et Boko Haram aussi, le deux. L'argent qu'on va organiser la CAN, ben, il faut faire tout pour que cette guerre puisse s'arrêter.
Monsieur, vous êtes d'où? Vous êtes de quel pays?
Chez eux.
Monsieur.
Élection présente, oui.
Vous êtes de quel pays?
Moi, je suis malien, sénégalais.
Non.
Ça fait deux pays là.
Vous êtes de quel pays?
La mine, mes parents sont sénégalais, sinon au Mali.
Mais monsieur, au Mali, au Mali pourtant, ils n'arrêtent pas d'organiser des afro-baskets et pourtant il n'y a pas de problème. Donc mais ça veut dire que.
C'est pas comme la CAN, l'afro-basket, on organise à Bamako.
Mais et alors, là-bas, ici, on organise où?
Les Camerounais peuvent organiser une CAN ça.
Mais c'est un. Daro, c'est un autre débat, franchement. Je pense que s'il y a, vous avez peur de quoi? Qu'il y ait des otages, des trucs comme ça?
Moi, c'est ça que je peur. Sinon, si ils veulent l'organiser, qu'ils l'organisent. Moi, je suis tout à cœur avec eux. Hein.
Ouais, oui. Alors le président.
En Cameroun, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Oui, mais le président, comment il s'appelle? Ahmad, il a dit, il n'y a que les Camerounais qui sont capables de savoir s'ils peuvent organiser ou pas.
Ouais. Et puis il y a eu.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'il a dit?
Il y a des compétitions qui s'organisent. Là, dernièrement, il y a eu le Festival international des arts martiaux en Afrique qui s'est déroulé au Cameroun. Et ça s'est je vous le confirme, ça s'est pas seulement passé à Yaoundé, ça s'est passé sur différents secteurs du pays, et ça s'est très bien passé. Ça a attiré des Asiatiques, ça a attiré des Américains, des Européens, ça a attiré. Alors, des gens du monde entier spécialisés dans les arts martiaux, et ça a été une très très belle fête.
Mais justement, on va parler du Mali, Diarro. Alors, merci Diarro. Vous allez écouter la liste du Mali.
Oui, la liste.
Ok.
La liste du Mali, on rappelle, le Mali est premier de son groupe avec 6 points et va affronter donc le Burundi le 12 et 16 octobre prochain donc pour les éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Alors dans la liste, oui. Je vais vous donner la liste des 21 joueurs donnés par le sélectionneur Mohamed Magasuba. Donc au niveau des gardiens, Djigui Diarra, Adama Keita, Mamadou Samassa. Au niveau des défenseurs, Amari Traoré, l'ami du coach Lamine Badiane.
Ah ouais, il est petit. Fala
Issako, Charles Traoré, Moula Wagé, Mamadou Fofana, Salif Koulibaly. Au niveau des milieux de terrain, Diadié Samasekou, Amadou Aïdara, Yves Bissouma, Souleymane Diarra, Cheikh Doucouré, Sambouya Tabaré, Lassana Koulibaly. Et au niveau des attaquants, Moussa Djenepo, Moussa Doumbia, Moussa Mariga, Abdoulaye Diaby, Adama Traoré, Alimani Gori, Adi Sako et Khalifa Koulibaly.
Alors, dans cette liste-là, est-ce que vous retrouvez des joueurs qui ont été champions d'Afrique des juniors, par exemple?
Oui, il y en a quelques-uns. Il y a Diadié Samasekou qui faisait partie du groupe des jeunes qui avaient remporté donc, la CAN. Après, il y a Amadou Aïdara aussi. Après, il y a beaucoup d'anciens qui étaient déjà présents
à la CAN.
Quoi. Il y a Cheikh Doucouré aussi, là, qui est ancien international U17 et qui est titulaire avec Lens. Mais sinon, après, c'est beaucoup d'anciens qui sont de retour du côté de...
Il y a un joueur que j'aime bien, moi, c'est Yves Bissouma. C'est un joueur que j'ai vu contre le Ghana lors de la CAN. Et c'est l'un des rares joueurs à tenir tête au Ghana, simplement parce que lui, il a joué un peu au Mali avant de s'expatrier.
Comme la plupart d'ici, donc, d'ailleurs.
C'est pour ça qu'ils sont bons.
Oui, mais moi, il y a un joueur qui est là, qui était donc... qui vient du Djoliba, il me semble. Hein. Mm-hmm. C'est le jeune qui a été transféré à Monaco.
Ouais.
Adama Traoré.
Non, celui qui vient du Nord, là, je crois. Il est clair. C'est,
celui qui avait participé à la Coupe du Monde.
Exactement,
qui avait été éblouissant.
Milieu de terrain éblouissant. Oui, je ne le vois pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de...
Non, tu as raison. Il n'est pas dans la liste. Donc peut-être que ce monsieur Mohamed Magasuba en a décidé autrement. Mais c'est vrai qu'il n'est pas dans la liste. Et lui, c'est un des futurs espoirs du football malien.
Pas de chèque de Cheikh Doucouré, non.
Il y a des talents à l'appel hein, dans ce pays-là, on le sait bien. Ouais. On en parle toutes les semaines, surtout pour faire plaisir à Baba, entre autres. Mais on en parle et
à Djabi. N'oubliez
pas.
Alors, Lassana, vous êtes avec nous. Peut-être que vous connaissez ce petit jeune.
Ah, le jeune, là. Allô, bonsoir.
Bonsoir. Oui,
bonsoir, Lassana.
Bonsoir, Lassana.
Ah, ça va, tout le monde.
Comment il s'appelle? Il s'appelle... Bonsoir.
Ouais, bonsoir, coach. Comment dire ça? Ah, j'ai oublié.
Toi aussi, t'as oublié.
j'ai oublié. Que ça, Sanjin, là, il était encadré. Encadré, je sais pas, 2016, non?
À la Coupe du Monde.
C'est pas grave. On va continuer. Ouais. Oui, on vous écoute rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde au stade.
Moi, je veux dire, comment dire ça? Les mangas. C'est en train de faire toutes les zones, il faut qu'il n'y appelle pas cette qui t'a battu. Il faut mélanger un peu. Parce que là, c'est trop, ils sont trop jeunes. Il faut mélanger ancien un peu quand même. C'est ça. Et pour cela, c'est ça que je voulais dire, quoi.
En tout cas, il n'y a pas Adama Traoré qui est de Monaco. Il n'y a pas Bakay Dibassi.
Là, c'est qui t'a battu, là.
Bakary Sako non plus.
Ouais, voilà, ta vie, c'est ça.
Bon, alors, par contre, il reprend Adi Sako et Lassana Koulibaly. Hein, donc,
ouais, parce que lui, il a changé tout. Il ne faut pas faire toutes les jeunes. J'aime bien les jeunes, là, comme André, il s'appelle Haïdra. Vous connaissez il était en commandé. Ils sont pris en Coupe d'Afrique à Mauritanie.
D'accord.
Ouais. Le joueur coach Lamine, c'est Salam Jidou.
Voilà, Salam Jidou.
Salam Jidou. Voilà, 18 ans et qui a rejoint effectivement Monaco.
Il est un peu jeune, il n'est pas encore.
Ah ouais, mais tu parles. Lassana, faut pas déconner. Hein. Tu dis il est un peu jeune. Et celui-là, comment il s'appelle, Cheikh Doucouré, il n'a pas 18 ans? Brice, vous êtes avec nous. Brice, on vous écoute.
Au revoir, Lassana.
Oui, je vous transmets ma salutation.
Bonsoir, Brice.
Oui, bonsoir. J'ai je dirais deux petites questions à vous poser.
Mm-hmm. Ouais.
La première, je suivais l'émission, je l'ai pris en cours. Ouais. Donc, je suis tombé exactement sur vous parlez de la sélection ivoirienne.
Mmh. Ouais.
Mais Côte d'Ivoire devait rencontrer quel pays? Parce que j'ai entendu, je ne sais pas si j'ai bien entendu, de la République centrafricaine.
Oui, c'est
oui.
ça.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, voilà. Ça, j'ai la réponse. Eh ben, maintenant, la deuxième question. C'est vraiment très bien que vous mettiez beaucoup de temps pour parler des grandes équipes africaines, ce qui nous tire vers le haut, ça c'est bien. Mais combien de temps vous avez pris tout à l'heure pour la sélection centrafricaine, s'il vous plaît? Parce que c'est en les tignant aussi, en mettant un peu de regard sur ces petits pays, ou bien petits pays en termes de qualité de sortie ou bien de maths,
ouais.
que ça pouvait quand même inciter soit les dirigeants, soit les habitants de ce pays à s'y intéresser. Donc, question et remarque en même temps dans ce débat.
Brice, vous avez tout à fait raison. Mais vous savez, hein, on a quoi, une heure et demie. On ne peut pas parler des 54 pays, vous savez, c'est tellement difficile. Mais vous avez tout à fait raison. Merci. On pourrait faire un petit dossier sur la République centrafricaine. Mais par contre...
dont on a parlé hein, dans tout feu de foot, on en parle.
Mais par contre, il faudra qu'ils aient des résultats. Parce que s'ils te prennent des valises, mais vraiment, ça, on va vous rigoler au nez. Vous êtes d'accord avec moi?
En tout cas, ils sont égalité avec la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont égalité avec 3 points. Donc, c'est double confrontation importante.
Voilà.
C'est très bien. Merci beaucoup. Mmh. Et puis, vraiment, je vous encourage pour tout ce que vous faites. Et puis,
merci beaucoup.
Restez avec nous.
Merci.
Salim, vous êtes avec nous, Salim, bien sûr.
Bonsoir, coach Lamine Badia.
Salut, Salim.
Salut, Salim.
Ça va?
Bien. Ça va. Et toi?
Ça va. Moi, je voudrais parler de Djigui Diarra, le jeune, parce que tu évoquais, coach Lamine, la sélection du Mali. Mmh. Et moi, ça fait des années que je parle de Djigui Diarra. Djigui Diarra, c'est un gardien, donc un jeune gardien, qui a aujourd'hui 23 ans.
Stade malien.
Moi, je l'avais découvert lors de la Coupe de la Confédération 2015 et lors du Mondial des jeunes 2015 en Nouvelle-Zélande avec le Mali.
Ouais.
C'est un super gardien de but. Il y a un turnover qui est effectué au Mali. C'est vrai que ce n'est pas toujours les mêmes gardiens, mais en général, Djigui Diarra est celui qui a beaucoup de temps de jeu en équipe nationale.
Mmh.
Alors lui, il faut savoir qu'il est un peu foufou, c'est-à-dire qu'il est... C'est un peu le Renford Kalaba du Mali. Renford Kalaba, je prends toujours lui parce que j'adore ce joueur zambien, international zambien qui évolue au TP Mazembe. Renford Kalaba, c'est un génie. Il a de l'ordre.
Très fort.
C'est un mec qui a une technique exceptionnelle. Mais le problème, c'est qu'il est un peu foufou et il a des problèmes de comportement. Djigui Diarra, je dirais pas qu'il a autant de problèmes de comportement que Renford Kalaba, mais il est un peu dur à gérer, mais je vous assure que Djigui Diarra, en termes de qualité pure, c'est l'un des meilleurs gardiens de notre continent.
Ouais.
Et je peux vous dire que Djigui Diarra, il est toujours au stade malien et il fait des très très belles performances avec l'équipe nationale et très très fort. Sinon, pour rebondir sur ce que disait notre auditeur, que je salue d'ailleurs, Brice, qui disait que il n'avait pas beaucoup entendu parler de la République centrafricaine sur notre plateau aujourd'hui. Je tenais à lui dire qu'on avait fait un sujet sur la République centrafricaine.
Ouais.
C'est un pays de football, et d'ailleurs, même toi, Doyen Willy, t'avais un ami brésilien qui était venu superviser...
Ancien international.
Ouais.
Voilà, qui est venu superviser des joueurs en République centrafricaine, et qui était agréablement surpris par le niveau du football là-bas. Il faut savoir que nous, en Afrique, malheureusement, quand on a un petit peu d'instabilité au niveau politique, malheureusement, ça contamine un peu notre football. Mais il faut savoir que la République centrafricaine, c'est une équipe qui a éliminé l'Égypte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique il y a quelques temps de ça. Donc, c'était pour 2013, ils les ont éliminés. Donc, c'est pas n'importe qui, la Centrafrique, en parle. Même si aujourd'hui, on n'a pas évoqué le sujet, mais on l'avait évoqué... précédemment.
C'est un pays de football, hein. C'est ta raison, Salim.
C'est pas seulement football, c'est basket aussi.
Basket aussi, bien sûr.
Tout de suite,
très très bons joueurs de basket.
Ils sont en phase, en possibilité de se qualifier pour le championnat du monde. Comme meilleur troisième. Donc, à partir du mois de novembre ou février,
Inch'Allah.
Bon, il y aura la possibilité de voir cette équipe centrafricaine avec bien sûr des joueurs que je connais très très bien puisque je les fréquente très souvent. Messieurs, il nous reste une minute. Salim, tu restes avec nous. Tu restes avec nous. On va passer une page de pub et on revient tout de suite.
Les différents championnats africains sur Africa numéro 1.
sur la radio africaine, bien sûr, avec Christian Chango, avec le doyen Willy, avec Hakim Djelouat et bien sûr le président Akindele. Voilà, je l'ai dit, c'est fini, c'est clair, c'est net. Messieurs, nous allons parler bien sûr de 1, 2, 3, Viva Algérie et puis ensuite de l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun qui actuellement est dans la moisse, puisqu'on ne sait même pas qui fait les convocations. On parle de Eto'o. Le pauvre Eto'o, il a tout sur le dos. Hein.
Il a le dos large.
Il a le dos large.
Mais c'est comme ça, comme ça a été un immense joueur. Donc malheureusement, ça va te faire.
Il faut reconnaître qu'il est populaire quand même dans son pays, oui, hein, malgré ce qu'on dit. Hein.
Ouais, mais peut-être que lui, il a envie d'être populaire.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr. C'est que le sélectionneur Clarence Seedorf a rappelé 5 nouveaux joueurs pour la double confrontation face au Malawi.
C'est pas Samuel Eto'o qui a appelé.
Il y a notamment pour remplacer Clinton G, Vincent Aboubakar qui on le sait et Stéphane Bahokem. Alors, Christian Chango.
Oui, la liste donc de Clarence Seedorf et son adjoint Patrick Kluivert. Au niveau des gardiens, donc Fabrice Ondoa, André Onana et Carlos Kameni. Au niveau des défenseurs, Colin Faye, Dawa Chakunte, Josim Ngadun, Jaoui, Oyongo Bitolo, Yaya Banana, Jérôme Ongwene, Gaëtan Bong, Armel Kanambik.
Je le connais, lui.
Au niveau des milieux de terrain, Zambo Anguissa, Georges Manjek, Pierre Ramsès Akono, Pierre Koundé Malong et Petrus Boumal. Et au niveau des attaquants, Bassogog, Dimitri Oberlin, Fabrice Olinga, Jacques Zoua, Eric Maxime Choupo-Mouting et Karl Toko Ekambi du côté de Villarreal.
En tout cas, c'est une liste qui a fière allure. Mais par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a.
Ah oui, pardon, j'ai oublié deux joueurs, je ne vous ai pas donné la suite de la liste. Paul-Georges Ntep. Et Joël Tagueux, c'est la suite de la liste. Ils sont 24.
Ouais, non, mais ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, il y a des chevaux de retour, de vieux chevaux de retour. Carlos Kameni.
Oui, moi je pensais qu'il était à la retraite, mais là je vois son nom revenir. Mais un gardien peut. On a vu Zoff, champion du monde à 40 ans. Donc.
L'année dernière, face au FC Barcelone, il a fait le mur. Rien n'était passé, donc c'est un joueur qui peut encore apporter de belles choses pour une sélection.
Kanabik, Armel Kanabik.
Autant au niveau des gardiens, c'est une équipe, il y a quand même, quand tu vois les joueurs, les 24 joueurs présents, il y a quand même de la qualité. Ouais. Là, rien que sur les 3 gardiens, ce sont 3 gardiens de
classe mondiale.
De très bon niveau. Ouais. Que ce soit
les attaquants aussi. Les attaquants aussi.
Il y a encore une fois, c'est que le papier, on ne les a pas vus encore sur le terrain. Mais ils ont une sélection, potentiellement, il y a quand même des joueurs de qualité. Donc après, ils ont la double confrontation face au Malawi. Quand on sait que Vincent Aboubakar, qui brillait du côté de Porto, malheureusement, il s'est blessé, je vous en parlais la semaine dernière, il s'est fait les croisés, il est absent pendant très longtemps. Il y a vraiment de la qualité. C'est un pays de football, hein. C'est un des plus grands pays de football africain, on ne l'apprend à personne ce soir. Mais il y a de la qualité, il y a des joueurs maintenant, il faut que... Avec le nouveau staff en place, il faut que ça prenne et que tout le monde adhère. Ils sont champions d'Afrique en titre quand même.
Oui, il est président d'Afrique.
Oui, et comme l'a dit Christian Chango, cette liste sur papier, c'est de très bons joueurs. Maintenant, il faut monter sur le terrain prouver que nous avons une référence. Voilà moi ce que je peux dire sur cette liste concoctée par monsieur Clarence Seedorf.
Aidé par qui? Quand on va chercher des joueurs.
Mais moi, il a ton numéro, donc il t'appelle. Tu veux dire.
Mais je ne connais pas Yaya Banana.
Moi, je le connaissais parce qu'il avait joué. J'ai failli même travailler avec lui parce qu'il avait joué à l'époque en Tunisie. Je l'ai vu en Tunisie. Je l'ai connu en Tunisie, donc je le connais très bien. Donc, c'est un grand joueur physique aussi. Il est costaud, c'est un milieu de terrain, donc je le connais très bien.
Bon,
c'est un grand joueur. Il évolue en Grèce, c'est intéressant parce qu'on a pour majorité en fait des joueurs qui évoluent qu'en Europe ou en Chine avec un seul joueur, hein, c'est Bassogog. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est vrai que ça paraît impressionnant. Après, la réalité, elle est tout autre sur le terrain. Maintenant, il faudra bien essayer de faire. Faire tourner la mayonnaise.
Alors rapidement la liste de 1, 2, 3.
Et puis, on aura Salim qui va nous donner son avis sur les deux listes. Et puis, Djabi, bien sûr. La liste de Jamel Belmadi, 1, 2, 3.
Oui, hein, Jamel Belmadi, donc nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie, donc a donné sa liste des 23 qui vont affronter l'équipe du Bénin. Donc, on a deux concernés sur le plateau ce soir. Donc, c'est match aller-retour, hein, troisième et quatrième journée. On va donc, je vais donner la liste des 23 joueurs. Donc, Raïs Mboli, Azdine Doura, Mustapha Zegba. Au niveau de la défense, Aïssa Mandi, Youssef Attal, Rami Ben Sebaini, Jamel Ben Larmi, Rafik Alish, Mohamed Fares. Au niveau des milieux de terrain, Nabil Ben Taleb, Safir Taider, Adam Nas, Adlène Guidoura, Sofiane Feghouli, Rachid Ghezal et Riyad Mahrez. Et au niveau des attaquants, Ismaël Benacer, Yassine Brahimi, Yassine Benzia, Islam Slimani, Bagdad Bounedja et Isaac Belfodil qui est de retour. Et Belfodil, hein, qui est le buteur africain le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions européenne. La semaine dernière, il a marqué au bout de 44 secondes.
Alors, je pense que le prochain voyage du coach Lamine au Bénin, il va reprendre un autre avion. il va pas rentrer parce que il n'a aucun respect pour notre sélection. Ça, déjà, quand on donne la liste, il se met à rigoler.
Le match aller, hein, il est du côté de Blida et le retour à Cotonou.
Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour
lui.
Bénin.
Le Bénin n'a aucune chance. Aucune chance.
Ça fait match une face au Togo.
Je vais pas parler de chance, mais d'après cette liste, j'ai un peu peur pour le Bénin.
Mais c'est une liste sur papier. Non, mais c'est une liste sur papier.
Non, mais attends,
la vérité, c'est sur le terrain quand même.
Mais attends. Mais.
Ouais, mais après tout, ça m'intéresse parce que ça va équilibrer les choses parce qu'ils ont fait un match nul à Lomé. S'ils prennent. Je sais pas quoi.
Mais à Lomé, ils ont joué sur un terrain. Tu sais bien.
Synthétique.
Ouais. Voilà, exactement. Non,
alors, respecter la sélection béninoise de football.
Bon, ok, d'accord.
Voilà. Ouais, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. C'est pour ça que j'ai peur pour eux.
Salim, vous êtes avec nous. Allez, on y va, Salim, pour cette confrontation entre les agoutis du Bénin. Oh, pardon.
Les écureuils
du Bénin.
Non, le coach, je pense que son prochain voyage, c'est mort.
Pas de visa.
Les gars, petite parenthèse sur Yaya Banana. Yaya Banana.
Il a joué à l'Espérance, hein.
Oui. Mais c'était une star. Hein. C'était un des plus gros salaires du championnat.
Oui, je le connaissais.
Non. Il a gagné la Ligue des Champions 2011 avec l'Espérance. Avec l'Espérance, ouais.
Et n'écoute pas le coach.
Ouais, et sinon, concernant les agoutis, comme dit...
Non, c'est les écureuils. les écureuils, s'il vous plaît.
Les écureuils, mais c'est pareil, non? C'est pas...
ouais, d'accord. Ne me faites pas dire des choses, monsieur. Quand vous prenez un agouti...
C'est tous des rongeurs.
Attendez.
C'est tous des rongeurs, c'est
pour ça. Rien à voir.
Non mais pour être plus sérieux, les écureuils du Bénin ils sont pas mal dans le groupe, c'est les deux premiers, il faut savoir la CAN est passée à 24, donc c'est les deux premiers qui passent. Moi je dis les écureuils du Bénin, s'ils arrivent à bien négocier leur rencontre contre l'Algérie à Cotonou ou à Cotonou, je sais pas où
à Blida,
c'est à Blida. Cotonou, oui, mais c'est d'abord non, mais à Blida et après
oui,
c'est
d'abord
Cotonou.
Je sais à Blida, mais la seconde c'est
à Cotonou.
C'est à Cotonou, voilà. Non,
ça sera à Porto Novo.
Voilà, excusez-moi.
À Porto Novo. Alors, si c'est à Porto Novo ou à Cotonou, en tout cas, je sais qu'ils peuvent essayer de négocier quelque chose. S'ils arrivent à négocier ce quelque chose-là, ils pourront revenir en CAN. Moi, je me souviens que le Bénin était présent à la CAN lors de la fin des années 2000 avec Stéphane Cessignon, avec Ogombi. Oui. C'est un super joueur qui a joué notamment à l'État sportif du Sahel, qui a gagné avec des champions, qui a joué à Enyimba aussi, qui a gagné avec des champions 2004, donc double vainqueur de l'édition 2004 et 2007. Il a aussi joué avec l'En Avant Guingamp et il a gagné la Coupe de France 2009 avec l'En Avant Guingamp. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait aimer le Bénin. Donc le Bénin a un coup à jouer. Sinon l'Algérie, grosse pression sur Belmadi avec ce match nul en Gambie lors de la précédente journée. Il va falloir prendre des points contre le Bénin pour ne pas se retrouver dans une situation délicate, parce que je rappelle qu'il reste un déplacement très compliqué à négocier pour cette sélection algérienne à Lomé lors de l'avant-dernière journée. Donc faut pas croire, hein, le groupe n'est pas facile, hein. Ils ont fait match nul en Gambie, là il reste déplacement au Bénin et déplacement au Togo. Moi déjà avant j'avais dit que le groupe c'est pas si facile que ça parce que c'est pas des équipes qui sont faibles, hein. On parle pas de Djibouti, on parle pas de Sao Tomé Principe, on parle pas des Seychelles, on parle pas de l'île Maurice. Là on parle du Bénin, on parle du Togo, on parle de la Gambie. Donc attention à l'Algérie, grosse pression sur Belmadi. Mais il y a un truc que j'aime bien chez Belmadi, c'est qu'il a compris que les déplacements en Afrique, il fallait bien les négocier. Et il a intégré quelques joueurs locaux qui ont été utiles, notamment comme Bagdad Bounedjah, buteur en Gambie. J'en ai discuté avec lui. J'en ai fait part d'ailleurs de ma discussion à Hakim Djelouad. Je lui avais dit comme quoi j'avais un peu discuté avec Djabel Belmadi concernant son approche par rapport à l'équipe nationale, concernant les changements dans la manière de manager, parce que il y a eu que des entraîneurs auparavant à Parabamadjer, mais sinon il y avait que des entraîneurs étrangers. Donc il sait très bien que pour se qualifier en Afrique, il faut faire confiance aux locaux. Et il en a intégré quelques-uns.
Ah, oui.
Et ça va bien pour lui, ça va bien.
Bon, ok. Djabi, vous êtes avec nous, Djabi. Allô? Allô, Djabi?
Oui, allô?
Oui, on vous écoute, Djabi, rapidement.
Bonsoir tout le monde. En fait, parce que j'étais en retard, mon emploi de pote m'a pas prévu.
C'est pas grave, Djabi.
Voilà. En fait, je suis désolé de revenir en arrière un peu.
C'est pas grave.
Je voulais comprendre, en fait. Au Mali, tout le monde est en train de regarder le football malien mourir tranquillement.
Ouais.
Et la politique ne peut pas s'amêler, sinon la police de FIFA qui va venir pour les sanctionner.
Ouais.
Et on n'a pas de championnat.
Ouais.
Le dernier match que Mali, quand ils ont joué à Soudan, c'est Soudan-Sud. Hein.
Ouais.
Les joueurs, ils n'ont pas eu leur billet d'avion qui était remboursé par la fédération, il n'y a rien. Mm-hmm. Ils n'ont pas eu les primes des matchs qu'ils devaient leur voir. Il y a certains joueurs qui n'ont même plus envie d'aller jouer. Ils partent avec leurs propres moyens, en fait. Je comprends pas. Il n'y a pas de fédération. Tous les pays veulent être président de fédération pour leur poste, en fait. Mmh. Les gouvernements, ils ne peuvent pas s'amêler. Sinon, le pays sera sanctionné par
le ministère des Sports.
Je comprends pas. Comment on peut laisser le football pour prendre un otage par quelques gens?
Oui, c'est
ça. Ah, il a raison.
Oui, mais il a raison. Mmh. Moi, j'ai vu le président de la fédération
Mamoutou Touré
malienne ici. J'ai discuté avec lui. C'est quelqu'un qui a une idée claire sur le football. Positive. Et je ne vois pas pourquoi il peut avoir. Parce que les idées qu'il a, ce qu'il veut faire du football malien, et en plus, il connaît très bien le football malien, mais je ne sais pas pourquoi ce gars-là peut avoir des problèmes. Donc, on prend les problèmes de personne pour pénaliser la jeunesse malienne.
Il y a du sabotage.
Non, mais le problème, c'est Essad Djelliba, en fait. Le problème du Mali, c'est Essad Djelliba, en fait. C'est les deux plus grands clubs du Mali.
Oui.
C'est, en fait, il y a des clans de chaque côté. Mm-hmm. Les clans de Djelliba, il ne veut pas que les mecs qui viennent d'Essad soient les présidents des fédérations, en fait. Ils ont mélangé plein de trucs.
C'est des problèmes de personnes. C'est des problèmes de personnes, Djabi. Ouais.
Là, peut-être que vous êtes à la fin, on n'a pas le temps de
ouais, on a...
Non, mais on en reparlera la semaine prochaine, avec plaisir.
On va en reparler.
Voilà. Djabi, merci d'être venu sur la radio africaine. On va mettre un jingle pour parler. Il nous reste une vingtaine de minutes pour parler un peu de ce championnat de France.
La Liga espagnole sur Africa numéro 1.
Ça s'est transformé en Liga espagnole. Nous on parle de ce. Non. Et là, on a dit que, allez, il nous reste 15 minutes. On va les consacrer au championnat, n'est-ce pas, de France, Christian Chango.
Oui, le championnat de France et la Ligue 1 hier. Donc, c'était la 10e journée de Ligue 1 qui s'est conclue hier, on le rappelle, par la victoire du PSG 5-0. La 9e journée, par contre. Alors, les résultats, Toulouse, Nice, 1-0, Lille, Saint-Etienne, 3-1, Guingamp, Montpellier, 1-0, Angers, Strasbourg, 2-0, Amiens, Dijon, 1-0, Nîmes, Reims, 0-0, Bordeaux, Nantes, victoire de Bordeaux, 3-0, Marseille, Caen, 2-0 pour Marseille, Monaco, Rennes, défaite monégasque, victoire rennaise, 2-1, et Paris Saint-Germain, Lyon, on en a parlé, vous l'avez tous vu, 5-0 pour le PSG avec notamment 4 buts de Kylian Mbappé. Au classement, Paris 1er, Lille 2e, Marseille 3e, Montpellier 4e, Saint-Etienne 5e, Lyon 6e. En bas du classement, Monaco 18e à égalité avec Nantes du coach Vahid et Guingamp, l'équipe d'Antoine Comboiré, dernière du classement de Ligue 1.
Messieurs, on ne va pas revenir parce que je crois qu'on en a parlé, ou les gens en ont parlé, ou les journaux en ont parlé de A à Z par rapport à Mbappé, n'est-ce pas?
Ouais.
Mais le problème, c'est que, la question que je vais vous poser, est-ce que le championnat est fini? Fini?
Non. Pour moi, non.
Ouais, pour moi, mais par rapport à l'année passée, le niveau des autres équipes a baissé un peu. Parce que l'an passé, on a vu des équipes comme Strasbourg qui ont tenu tête au PSG. Mais cette année, je trouve que c'est un peu difficile. On voit les ténors, ou bien ceux dont on pense qu'ils seront sur le podium, comme Monaco qui est à la traîne. On a vu Marseille qui a des problèmes. On a vu Bordeaux inexistant. Et donc, il y a un problème par rapport aux autres équipes. Mais Monaco, je suis très très content de la place de Monaco parce qu'ils s'amusent avec le sport. Donc il faut qu'ils payent ça un jour.
Alors, président Kindele, vous qui êtes souvent au Parc des Princes dans la Corbeille, dites-nous un peu...
Il est beau d'ailleurs à la télé hein, quand vous le voyez.
Ben oui. Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du Paris Saint-Germain. Est-ce que se dire que ce Tuchel est celui que vous attendiez tous, est-ce que ça veut dire que cette équipe du Paris Saint-Germain... Donnez-nous un peu des biscuits concernant... J'ai envie de parler un peu de Neymar, de... Non, il a changé, c'est bien pour lui. L'autre est aussi fort que lui, c'est bien aussi pour lui. Mais qu'est-ce qui a changé au Paris Saint-Germain?
Ce qui a changé au Paris Saint-Germain, c'est simple. Il y a un nouvel entraîneur du nom de Tourelle.
Oui, ça on a vu. Oui.
Et c'est le discours. Le discours et le changement tactique qu'il a apporté, cette culture tactique qu'il a apporté au PSG. C'est vrai que le PSG ne joue pas encore un football champagne, je l'admets. Mais il y a quand même eu, il a bousculé les lignes quand on regarde ce qu'il a fait au PSG.
Mais c'est pas ce qu'on a vu hier, carrément.
Non, c'est vrai.
Dire que quand même, c'est vrai. Quand même, quand on voit cette équipe de Lyon, comment elle a malmené, elle a malmené Paris, elle a récupéré le ballon.
Possession de balle pour Paris.
Les 45 premières minutes. Exactement.
Je peux vous dire que si vraiment il n'y avait pas eu la blessure de leur capitaine, je crois qu'on aurait vu un autre match.
Je suis tout à fait d'accord. Si Fekir n'était pas sorti, le match allait être autre chose. Mais il faut reconnaître quand même que Fekir est sorti. Nous avons des joueurs comme Ndombele, Bertrand Traoré, qui ont quand même apporté beaucoup. Moi, je vous dis, à la mi-temps, j'avais peur pour le PSG. Je ne savais pas comment ils allaient aborder cette deuxième mi-temps, parce que il y a eu Cavani qui a été sacrifié par rapport à ce carton rouge de Kimpembe. Ouais. Donc, je me disais, comment va évoluer cette équipe ? Surtout que Mbappé n'avait pas de réussite. Tout ce qu'il tentait, ça n'allait pas. Et après, la lumière est venue de ce jeune Mbappé, qui a quand même crucifié. Et n'oublions pas que Neymar quand même a fait une très belle prestation. C'est et c'est ce que moi je veux qu'il fasse, descendre au niveau du rang central, récupérer le ballon et le distribuer.
Il est
très bon dans ce rôle.
Ouais, il a énormément travaillé dans son positionnement. Et par rapport effectivement à la première mi-temps, on a vu, c'est vrai, une première mi-temps en demi-teinte de la part du Paris Saint-Germain, avec aussi le carton rouge, il faut le rappeler, de Kimpembe.
Il y a carton rouge.
Bien sûr qu'il y a carton, tout à fait. Il y a rien à dire sur cela. Je pense que c'est l'apport. Je rejoins Souleymane. Je pense que c'est l'apport tactique, coach Lamine, de Thomas Tuchel, qui fait aussi la différence. Après, c'est vrai, on n'a pas un PSG qui nous montre de grandes choses. Sans parler des résultats, les résultats sont là, c'est la meilleure attaque aujourd'hui, c'est la meilleure défense, ils ont pris combien 6 buts seulement.
Ils ont marqué 32 marqués, 6 buts encaissés.
6 buts encaissés, 30 buts marqués, ça reste tactiquement, ça reste l'équipe la plus efficace pour le moment.
En France.
C'est ce que je veux ajouter. C'est vraiment inquiétant le match que j'ai vu hier, parce qu'il y a eu 4 buts de Mbappé qui... cache la misère de ce club. Parce que s'il y avait une équipe en face qui avait résisté comme en première mi-temps, ils vont retrouver ce genre d'équipe en Champions League qui va résister. Donc quand les pertes de balles ou bien le manque de précision de Mbappé dans un match, parce que comme je disais toujours, quand moi j'étais attaquant, quand mon papa me disait que dans un match équilibré, il n'y a que 5 occasions pour toute l'équipe. Donc quand on n'est pas efficace à ce niveau, le PSG en Champions League, on ne va pas retrouver le PSG en Champions League. En Ligue 1, oui, c'est déjà fait, comme tu dis, le championnat est terminé. Mais l'efficacité, quand il y aura de l'adversité en face, j'ai peur.
Christian Chango.
Oui, coach, pour répondre à ta question, est-ce que le PSG, est-ce que le championnat est plié? Non, le championnat, il n'est pas plié. Il y a toujours des trous d'air dans une saison. Il faut que bien sûr, le PSG va tout faire pour aller le plus loin possible et continuer comme ça, mais il y a toujours des trous d'air dans une saison. On n'est pas aussi à l'abri d'une blessure. L'an dernier, on a bien vu Paris a perdu Neymar pour toute la fin de saison. Donc, c'est bien parti, mais les autres équipes, Lille a 6 victoires, un match nul et seulement 2 défaites. Donc, eux, ils sont dans le rythme. Derrière, les équipes, quand même, hormis des équipes comme Lyon ou comme Monaco, comme tu disais, qui passent complètement la ramasse, pour moi, c'est pas fini encore. Et il faut surtout pas que les adversaires, eux, dans leur tête, se disent « ça y est, c'est déjà plié ». Sinon, on va voir ce qu'on a vu hier, même si ça s'est passé sur un laps de temps court, avec des valises toutes les semaines. Mais c'est vrai que Paris, depuis le début de saison, en championnat, met au moins 3 buts par match. Donc, dans la tête des adversaires, forcément, ça doit jouer.
Ben le oui, coach n'est pas d'accord.
Mais bien sûr que je ne suis pas d'accord.
Ce n'est pas encore flamboyant, non, c'est vrai, l'ami.
C'est même pas ça. Moi, je suis en train de me poser des questions par rapport aux équipes qui rencontrent le PSG, parce que pour le moment, à part le test contre Lyon, je n'ai pas vu une équipe du Paris Saint-Germain qu'elle a rencontré des équipes comme je ne sais pas, Guingamp, des trucs comme ça. Les véritables tests se font contre des équipes comme Montpellier.
C'est ça, quand tu regardes contre Arsenal,
exactement.
Il gagne Nîmes 3-2, mais c'était compliqué. C'était compliqué.
Moi, j'attends de voir. C'est vrai que là, il domine, c'est vrai que là. Mais on rencontre des équipes qui ne sont pas vraiment à la hauteur du Paris Saint-Germain. Mais quand j'ai vu la première mi-temps de l'équipe du Paris Saint-Germain hier face à Lyon,
ça peut inquiéter,
j'étais agréablement surpris par Lyon. Malheureusement, il y a des faits de jeu. Moi, le pénalty, je ne l'aurais pas sifflé.
Pourquoi?
Je suis arbitre.
Il faut le siffler parce qu'il a été fauché. Revenons sur la prestation.
On va prendre Salim okay. rapidement. Salim, oui.
Oui, coach Lamine, concernant le Paris Saint-Germain, moi j'ai une inquiétude, c'est concernant Thomas Tuchel. Donc Thomas Tuchel, il est venu en fait au Paris Saint-Germain, il voulait mettre en place un 3-4-3. Apparemment, les joueurs n'ont pas accepté, donc maintenant ce qu'il fait, c'est qu'il ne se casse pas la tête pour éviter d'avoir des problèmes des vestiaires. Il met Marquinhos numéro 6. Marquinhos numéro 6, c'est pas possible. Marquinhos, c'est soit un défenseur central, ou soit un latéral comme il l'était à la Roma, ou comme il l'était lors de quelques matchs de Ligue des Champions, sous l'air blanc, l'air Laurent Blanc. Sinon, le mettre 6, on se fait bouffer à Anfield. Le Paris Saint-Germain s'est fait bouffer au milieu de terrain. S'il s'entête à continuer à mettre Marquinhos en numéro 6, ça ne le fera pas lors des grands matchs de Ligue des Champions.
Bien sûr.
Salim, là, c'était exceptionnel parce que Rabiot était suspendu.
Il a fait Anfield. Il a mis Marquinhos en 6 à Anfield. Ouais. C'est une catastrophe.
Mais c'est pas normal.
Et lui-même, Tuchel, a déclaré que pour lui, Marquinhos était très bon en 6. C'est faux. Là, ce qu'il fait, Tuchel, c'est de la poudre aux yeux. Il ne veut pas se mettre le vestiaire à dos. Il a une technique de management. C'est
les embrassades.
Voilà, il veut être un grand copain et c'est pas comme ça que ça va marcher. Nasser El Khelaifi, le président là.
C'est l'ami de.
Non mais coach, pourquoi il est venu parler après Lyon? Pourquoi il vient à la soupe? C'est facile de venir à la soupe après Lyon. Après Anfield, il est pas venu. Nasser El Khelaifi. Après la débâcle, la 3-2 là-bas Anfield, il est pas venu. C'est pas normal. On a toujours le Paris Saint-Germain a toujours le même comportement en Ligue des Champions. Toujours à l'extérieur en plus. Toujours. C'est au milieu de terrain, se faire bouffer. La Ligue des Champions, si le PSG veut gagner avec des champions, il faut gagner la bataille du milieu de terrain. C'est que comme ça qu'on gagne avec des champions.
Oui, alors PSG.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse que fait notre ami Salim. Dire qu'il met de la poudre aux yeux, non. Écoutez, dans un bon manager, c'est quoi? C'est pas de faire de la dictature. Parce que le système de jeu, Ce sont vos joueurs qui vont vous mettez un système de jeu en place et c'est si vos joueurs se sentent capables de le faire mais là il y a eu un discours de vérité entre joueurs et managers. Voilà et il a je vais pas dire que c'est de la poudre aux yeux, il a compris. il a compris, il n'est pas resté fermé. Et donc, moi, je pense que Tuchel est un très bon manager. Il ne fait pas de la poudre aux yeux. De toute façon, aujourd'hui, à part le faux pas face à Liverpool, le PSG n'a pas encore fait de faux pas en tant que tel. Donc, laissons Tuchel travailler avec Sam Etone. Et après, nous allons le juger.
Nous allons le juger.
Ouais. Voilà.
Il n'y a personne en face. C'est ça le problème.
C'est ce qu'on le dit. Mais bon, on verra par rapport face à Marseille. Hein, je pense que...
Il y a déjà Naples qui arrive en Ligue des Champions. Il y a déjà Naples qui arrive, qui est un test important parce qu'ils ont battu Liverpool. On verra bien. On verra bien ce qui va se passer.
Est-ce que tu es d'accord que Tuchel, au début, il voulait mettre un 3-4-3. Les joueurs ont dit non. Mais maintenant, il cherche la facilité pour pas avoir de problème de vestiaire. Il met Marquinhos en 6. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est pas possible en Ligue des Champions?
Salim, je suis d'accord que les joueurs n'ont pas voulu jouer ce système. Mais ça a été des moments d'échange. Ça a été des moments d'échange où le capitaine a été convoqué dans son bureau, où il y a eu des discussions avec toute l'équipe. Il n'impose rien du tout. Et moi, c'est ça un bon manager. Voilà.
En tout cas, ce n'est pas notre ami de Nantes, coach Vahid, qui lui est arrivé.
Coach Vahid va être, ça va être un peu compliqué pour lui ici parce que je vois le cas de Ravanelli ici. Parce que les joueurs en France, surtout en France, hein, quand le profil de Vahid ne passera pas ici en France, parce que c'est quelqu'un, il a dit. Ils seront à quatre pattes contre et Bordeaux. Parce qu'il gère les joueurs comme ça, lui. C'est un sportif dans l'âme. Donc, les joueurs sont tellement à l'aise que quand il y a un coach comme Vahid qui les pousse, ils vont faire grève après contre... tu verras. Ils l'ont fait comme Ravanelli.
Alors, autre situation au niveau de ce championnat, c'est la situation de Monaco.
Monaco, malheureusement... Jardim, qui est un très bon coach, ne pouvait pas faire de la magie éternellement. Et on ne sait pas. Est-ce que c'était un projet spéculatif? Est-ce que c'était du football? On connaît un peu les déboires du président Ribolovlev, surtout au niveau de son divorce qui lui a coûté bonbon. Et là, ils sont partis dans un projet de vendre des joueurs, de valoriser. Malheureusement, ça pouvait fonctionner pendant un moment, mais quand tu renouvelles constamment l'effectif, quand tu ne laisses pas un minimum de base solide, on arrive à ce qu'on voit maintenant et... Monaco va finir sûrement à la 10e place, ils vont se reprendre. Parce que
ils
ça
vont
reste
se reprendre, ouais,
mais,
je pense.
Mais c'est pour Jardim, moi je me mets à la place de l'entraîneur qu'il est, ça doit être compliqué tous les ans de changer, de relancer. Je pense que ça doit user, lui ça doit l'user. Les joueurs, quand on voit un Jemerson qui était énorme la saison dernière, la saison d'avant, c'est un fantôme, on voit des Sidy B aussi qui ont un peu du mal à revenir. Donc c'est compliqué, mais c'est pas facile pour les joueurs aussi, puisqu'ils se retrouvent là, au milieu, peut-être qu'au mois de janvier, ils vont partir pour 100 millions, donc c'est compliqué le projet monégasque, et c'est dommage, puisqu'il y a même pas un an et demi, ils étaient en demi-finale de Ligue des Champions, et ils marchaient sur l'Europe.
Président, un petit mot peut-être sur Monaco?
Oui, sur Monaco.
Ou bien sur un club qui vous a impressionné, Lille, je sais pas.
Lille nous impressionne en ce moment, mais revenons rapidement sur Monaco. Moi, je pense sincèrement que Jardim doit changer d'air et voir ce qu'il y a de mieux à faire ailleurs.
Oui, mais Jardim aime bien ce club. Il a poussé loin.
La vie à Monaco est agréable.
Oui, mais ils sont en train de faire une gestion d'un club en rouge et blanc, comme eux, au niveau de l'Angleterre. Donc, c'est un centre de formation qui vend les joueurs. Donc, ils vont le payer cash. Je serais très content qu'ils aillent en Ligue 2 pour comprendre cette situation-là. Mais c'est tout.
Hakim.
Moi, j'aime beaucoup le LOSC cette saison. Je pense qu'il y a un travail qui est intéressant, qui est fait depuis maintenant un petit moment hein, par le coach. À Saint-Etienne, déjà, on avait vu ses qualités de travail. Et à mon avis, le LOSC, c'est une équipe cette année avec ses joueurs, avec notamment le petit jeune Pépé qui a mis c'est un doublé ou un triplé il n'y a pas longtemps.
Il en a mis deux, trois. Il s'amuse toutes les semaines.
Je pense que c'est une équipe, coach Lamine, qui peut concurrencer effectivement des clubs comme le Paris Saint-Germain ou d'autres encore.
Ah ben, qui vivra verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette équipe du LOSC est en train de nous étonner pourvu que les joueurs qui composent cette équipe puissent être ensemble encore, parce qu'on ne sait jamais. Il nous reste quelques secondes, le temps de dire merci d'être venu, notre cher président. Hein. Merci à tout le monde, merci à à Salim. Et puis, on se retrouve lundi prochain. Ouais. Merci.
Il est venu les mains vides. Hein.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa numéro 1.